Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération Française de Cyclotourisme, FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales. C'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés. C'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi, et surtout, profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération Française de Cyclotourisme, FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous en Selle, le podcast où l'on parle vélo, entraînement et tout ce qui fait vraiment progresser quand on pédale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne presque tous les cyclistes, l'entraînement. Parce qu'on a tous déjà fait la même chose, on regarde les pros à la télé, on se compare, on voit les stages en altitude, les sorties de 6 heures, les données sur la puissance et on se dit que pour progresser, il faudrait sûrement faire pareil. Mais est-ce que copier les pros est vraiment la bonne solution? Avec Loïc, on va essayer de décortiquer tout ça. Ce qu'on voit à la télévision, ce que font réellement les coureurs et surtout ce que nous, amateurs, on peut réellement appliquer. On va parler de volume, d'entraînement, de FTP, de zone 2, d'ultra-distance et on va aussi essayer de comparer les méthodes d'hier et celles d'aujourd'hui. Et puis forcément, on finira par une question qui fait toujours débat dans le cyclisme. Qui est vraiment votre GOAT? Allez, installez-vous confortablement, on se met en selle et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Et bien sur cet épisode consacré aux professionnels, je suis au comparatif que l'on peut faire avec les pros, en plein Giro justement, je suis accompagné de Loïc. Salut Loïc.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors est-ce que tu as déjà comparé tes datas à celles de Pogacar?
Lesquelles? Parce que ça dépend. La zone 2 à
380, j'ai entendu.
Non. 330 sur un podcast avec un podcasteur américain. Il avait annoncé qu'il avait entre 330 et 340 de watts en zone 2. Donc, c'est-à-dire qu'il peut tenir ça à peu près sur 5-6 heures. Ce qui fait, pour quelqu'un qui fait 65 kilos, des vitesses assez folles. Hein. Et si je compare à ça, ça dirait que moi, je faudrais... Moi, à mon poids, il faudrait que je fasse, 430, 440. Donc, c'est pas ce que j'arrive à faire déjà sur 5 minutes. Donc, voilà. Et puis, si tu compares à ce qu'il a fait au Strade Bianche dernièrement.
Ça fait trop mal de
380
comparer.
380 watts sur les deux dernières heures. Bon, là, on est dans un autre game.
Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce que comment on pourrait expliquer aux personnes qui n'ont pas de notion de data? Parce que je me rends compte qu'en fait, et c'est d'ailleurs la grande partie de la communauté Tous en Selle, c'est que comment est-ce qu'on pourrait, quel comparatif on pourrait faire pour expliquer la performance de tenir 2 heures à 380 watts
à 65 kg, à étalon 70 kg.
Voilà, à 70 kg quand je pense à ma sortie que j'ai fait hier et que j'ai pas été capable de les tenir 8 minutes.
Tu vois, mais pas 8 minutes là, on parle, la plupart c'est même pas une minute en fait, tu vois. 2 minutes, tu vois. Mais c'est pas comparable en fait, faut pas comparer. Voilà, c'est comme quelqu'un, comparer, en fait. Comme un sprinter qui fait 1800 watts.
Cet épisode est terminé. Ne comparez pas.
Non, mais tu vois, sur ces domaines-là, avec ces personnes-là, c'est compliqué à comparer.
C'est vraiment un extraterrestre, par rapport à un Van Der Poel, par rapport à un Vingegaard. Il est vraiment hors norme, en plus des titres, des maillots. Physiologiquement, il est hors norme, ce coureur.
Je sais pas pourquoi tu me poses ta vie là, moi. parce que moi déjà, j'y crois pas. Donc pour moi,
c'est pas sain, c'est ça que tu veux dire? C'est pas naturel? Allez, vas-y Loïc.
Non, mais c'est en fait, on attaque direct.
C'est un épisode consacré au comparatif, c'est-à-dire que amateurs qui se comparent aux professionnels. Quand tu penses professionnel, tu penses aux champions du monde.
Alors moi, je vais te donner mon avis. Et c'est assez très pragmatique. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Il y en a plein d'autres qui le font. Je vous invite à aller voir Festina Boy et Antoine Vaillet ou... sur YouTube, Quentin Leplat, qui calcule tout très bien. Pour Tolo aussi, ils calculent, ils ont des modèles mathématiques qui prouvent.
C'est-à-dire que quand on annonce sur un Giro,
ils sont capables de savoir exactement les efforts,
les watts produits avec le poids du coureur, la durée de la montée
et le vent. Ils sont très forts pour ça. Moi, je vais être plus pragmatique. C'est très simple. C'est des gens qui font du vélo depuis très longtemps, tous.
Ah d'accord.
Oui. Donc en fait, il faut savoir qu'à partir de 18, 19, 20 ans, aujourd'hui, avec le volume qu'ils font, il y a pratiquement plus de progression sur ce qu'on appelle le VO2 max, sur leur capacité. Ils vont progresser peut-être sur la puissance brute, puisqu'ils vont prendre du poids. Ils vont progresser peut-être sur le temps de soutien sur certaines zones. Mais en gros, la marge, elle est très minime. D'accord? Donc en fait, c'est très simple. Tu regardes ce qu'ils ont fait chez les jeunes. Et tu regardes maintenant. Voilà. Tu regardes ce coureur, ce qu'il faisait chez les jeunes et avec qui il était. Donc tu vois à peu près le niveau qu'il avait par rapport aux autres. Et tu regardes maintenant. Tu fais ça avec tous. Et il y en a, bah voilà. Il y a Paul Sexas, depuis qu'il est petit, oui. Il défonce tout. Et encore lui, il a une particularité, c'est qu'il a gardé un corps d'enfant très longtemps par rapport aux autres. Quand il était junior, il faisait 50 et quelques kilos, alors que les autres en faisaient déjà 65. Donc il avait une puissance brute qui était moins bonne. Et donc lui, c'est un peu à relativiser. Pogacar, c'était pas le cas. D'accord, il a toujours été ce qu'il était, machin. Tu prends Remco, il avait rien à dire, il était là. Tu prends tout, tu les prends tous. Ceux qui, la plupart, quand ils étaient jeunes, ils étaient forts et machin. Il y en a, ils sont arrivés de nulle part, on sait pas d'où. Et puis ils ont gagné 10, 15, 20%. De leur capacité.
C'est l'entraînement, ça, Loïc.
C'est l'entraînement, ouais, tout à fait. C'est ce que tout le monde dit. C'est ça. Voilà. Mais moi, j'y crois pas. Voilà. Donc, désolé. C'est mon avis.
On pourra faire un épisode sur ça. Mais c'est vrai que. Et à l'opposé. Il y a ceux qu'on voit et d'un seul coup qu'on ne voit plus. Ouais. Tu vois. Et ceux qu'on ne voit plus. Et là, ça peut interroger. Donc, il y a des effets d'équipe. Où il y a des équipes qui dominent. Sur un début, une fin de saison ou un tour où tu les vois, limite ils freinent pour pas gagner l'étape parce que sinon ils les gagneraient toutes. Et l'année suivante, tu les vois plus du tout, ils ont tous disparu.
Ah ouais, moi.
Et c'est une autre équipe qui en masse prend le relais.
Je suis passionné. Je suis passionné de vélo depuis toujours et je suis même les jeunes, tu vois. Et tu vois quand tu vois Wout ou Mathieu, ils sont là depuis qu'ils sont cadets. Ils dominent le monde depuis cadet. Remco en cadet et en junior deuxième année. Lui, il a commencé en junior en cadet deuxième année ou en junior première année.
Il a commencé tard.
Il faisait du foot. Il a fait le championnat d'Europe. Il gagne avec 16 minutes d'avance. Voilà.
16 minutes d'avance.
Non mais voilà. Et les coureurs qui sont à l'époque avec lui, ils sont aujourd'hui aussi là. Donc, les écarts, moi il y a des trucs que je comprends pas.
Bon, on pourra faire un épisode, mais j'aimerais qu'on fasse un épisode consacré à ça, parce que là il y a quand même si vous lisez entre les lignes, si vous écoutez entre les lignes, il y a quand même un sujet dopage qui tourne, dopage physique, dopage mécanique.
Ouais, en tout cas des choses qui sont pas
naturelles,
qui sont en plus et qui n'expliquent pas la progression.
Voilà, moi j'aimerais faire
parler de tous ces mots-là, il y a un truc qui se passe qui explique pas la progression.
Bon, moi j'aimerais faire un épisode vraiment mais avec comme tu l'as dit, quelqu'un de très 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 pointu qui aurait des exemples très 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 précis à nous donner et on va travailler sur ça. Mais en tout cas, on est en plein Giro actuellement, alors c'est vrai qu'on peut regarder le Giro et se dire, moi, j'ai envie de progresser, je vais prendre le plan d'entraînement, je vais copier le matériel. Et il y a ce qu'on voit à la télé, mais ce qu'on ne voit pas en dehors. Et comme tu l'as dit, ces coureurs-là s'entraînent, je sais pas, un pro s'entraîne combien? 30, 35 heures, 25 heures par semaine?
Oui, 30, 35 heures.
Voilà, 30, 35 heures par semaine. Quel amateur, je sais pas, ou passionné, mais qu'en tout cas, qui a un job à côté, enfin, qui a un job, peut se permettre de faire 30 à 35 heures?
J'ai lu un article dans l'équipe qu'il y avait une personne qui faisait ça, celui qui fait le plus de kilomètres en Europe ou dans le monde là. Mais il travaille pas.
Bah, voilà. Est-ce que c'est avoir une vie équilibrée?
Mais il fait 200, 300 kilomètres par jour, un truc comme ça.
Mais c'est...
Tu l'as pas vu cet article?
Je l'ai pas vu, non. Okay. Non, je l'ai pas vu. Ouais. Mais pourquoi pas? Alors, ces professionnels.
C'est-à-dire tout le monde, il fait entre 6 et 12 heures.
Ouais, voilà.
12 heures déjà, c'est des gens qui font beaucoup.
T'es en bonne forme physique.
Ceux qui font 16, 18, 19, 20, il y en a beaucoup, c'est 1%. Et au-dessus de 20, ils travaillent pas.
Oui, c'est ça.
Ou peu. S'ils travaillent, ils ont un niveau de responsabilité qui leur permet de faire pas mal de déléguer beaucoup.
Oui.
Et d'organiser leur emploi du temps comme ils veulent, avec une famille, voilà.
Intéressant, ça c'est ton expérience.
Mais sur 6-12 heures, c'est la grande majorité.
Ouais. C'est la grande majorité, effectivement. Donc ces professionnels s'entraînent 30 à 35 heures, vont faire des stages en altitude. Alors moi, je l'ai fait, ça, des stages, mais j'étais étudiant et j'allais sur mes vacances, tu vois. Donc, j'étais pas dans la vie professionnelle. Est-ce que quand on est dans la vie professionnelle, on peut le faire? Des stages en altitude très programmés, bah, je pense que ça ne concerne qu'un pour cent, comme tu le dis, des personnes. Ils ont des entraînements qui sont programmés et ils ont aussi une énorme expérience du roulage, hein, sur le vélo. Ils ont des physios, ils ont des kinés, ils sont massés hors compétition également, parce qu'ils ont un kiné avec qui ils bossent près de chez eux. Il y a des mécaniciens, il y a des analystes autour des datas. Donc, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui se comparer à un professionnel? Probablement pas, mais si on devait se comparer avec un professionnel, ça serait sur quoi? Le matériel, peut-être? Tu vois, sur quoi on pourrait se comparer à un professionnel?
Tu sais, on a fait un podcast sur la zone 2. Sur oui. La zone 2, on a sorti un réel où j'explique que les pros font 90 à 95% de basse intensité, donc zone 1, zone 2, et 10 à 5% d'intensité. Donc c'est juste cette partie-là, ça a été balancé sur les réseaux, mais là, le nombre de messages que j'ai eu, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, si on fait que de la basse intensité, ça va pas. Donc c'est parce qu'on se compare. Ouais. Donc moi, je parlais des professionnels qui ont un volume d'entraînement entre 30 et 35 heures. Évidemment, et on le dit très bien dans l'épisode, si t'as 6 à 10 heures à y consacrer, tu vas pas consacrer 90% de basse intensité parce que c'est proportionnellement, ça va pas te permettre de progresser. Alors on est tous d'accord sur ça, mais la comparaison en fait, elle se fait pas sur la durée, les données brutes. C'est je prends un peu de recul et c'est sur la proportionnalité. Voilà. Donc sur la proportionnalité, il faut une majorité de basse intensité, une minorité de haute intensité, et on essaye d'équilibrer ça. Quand tu as 30 à 35 heures, évidemment, si tu faisais 20% de haute intensité sur 30-35 heures, ben ce serait beaucoup trop, en fait. On va faire 6 heures de PMA par semaine. Voilà. Donc en fait, c'est juste cohérent. C'est juste pour expliquer que les proportions. Voilà. Ben voilà. Ça, c'est ce type de comparaison qu'il faut pas faire.
Mais c'est vrai que je trouve que l'amateur passionné, même qui a du temps, parfois s'entraîne mal. C'est-à-dire que il a peut-être la possibilité de s'entraîner 15 heures par semaine, mais parfois, et surtout aujourd'hui maintenant avec les outils digitaux qu'on peut avoir, les vélos connectés en intérieur. D'ailleurs, j'ai eu la chance de tester un vélo Zwift lors de mon passage à Montréal il y a quelques mois chez les cycles Régis. Je les citerai, je les salue s'ils écoutent, parce que d'ailleurs j'en profite pour passer un petit bonjour à tous les auditrices et auditeurs québécois, canadiens qui nous écoutent, et j'ai été agréablement surpris.
Ah, il y en a beaucoup, moi je reçois beaucoup de messages.
Lors de mon passage au Salon du Vélo à Montréal en février dernier, de constater qu'il y avait énormément d'auditrices et d'auditeurs. Donc, on vous passe le bonjour, on pense à vous, vous êtes sortis du froid, là.
Comment on dit bonjour en québécois?
Salut,
mais ils n'ont pas une expression.
Ils disent allô.
Allô.
Bah, allô, voilà. Allô. Mais en tout cas, mais en tout cas, ouais, ils ont eu un hiver très, très rude. Et donc, j'ai eu l'occasion, il faisait moins 15 quand je suis passé. Donc, autant dire, même si j'ai une maîtrise du froid, c'était un peu compliqué, et j'ai testé le vélo Zwift. Donc, aujourd'hui, on est capable d'avoir des moyens de s'entraîner en intérieur et de faire 15 heures en semaine beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années.
Oh, ça, j'ai une anecdote.
Mais, termine, et tu l'as dit après, retiens-la. Mais je suis convaincu qu'avec 8 heures, très précis, très ciblé, on progresse plus que 15 heures sans plan d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, mais on progresse plus que... Non, pas forcément.
Bah, je pense que si tu as 8 heures qui sont efficaces...
Oui, que si tu faisais
15 heures sans savoir pourquoi tu fais 15 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a ce mythe du... j'ai fait tant de kilomètres par... moi, je me souviens, quand j'étais au niveau, on disait, tiens, t'as fait tant de kilomètres. Il n'y avait pas d'heure ou de FTP ou de watt. C'était, t'as fait combien de kilomètres cette semaine? Ouais, et en fonction des kilomètres que tu donnais, sans savoir quelle était la qualité de ces kilomètres-là,
on te disait,
ouais, toi, tu vas marcher. Tu devrais plus rouler.
J'ai entendu un podcast sur un de nos amis communs qui a interrogé et qui disait, et qui parlait comme ça, faire 9000, 12000...
moi aujourd'hui, je me suis jamais.
En fait, c'est pas ça qui te donne
aussi peu entraîné.
C'est la proportion. Tu vois, complètement. On prend un exemple. Celui qui a gagné le Race Cross France cette année.
Jonas.
Il y a combien de kilomètres?
Pas beaucoup, je pense.
Bah non. Il a pris le départ avec 6 000.
Ouais, donc.
Alors qu'il y en a plein qui devaient être à 15 ou 16.
Ouais, 15, c'est vraiment beaucoup. Hein.
Oui, là, mais j'en connais, hein, c'est, je te le dis.
Moi, j'ai pris les US à 12 000, mois de juin. Enfin, à peu près la même période, 12 000. Et je peux te dire que t'as pas de vie sociale. Là, c'est, quand tu bosses, là, c'est compliqué.
Bah, voilà, tout ça pour dire que c'est une question de proportion. C'est pas une question de quantité. C'est comment j'organise mon volume et la proportion que je mets de haute intensité, de basse intensité. Et cette proportion, elle est individuelle. Donc, et temporelle, en fonction du contexte.
Donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps, les amateurs comparaient toujours les kilomètres. Tu fais combien de kilomètres à l'année? Tu vois, on pose souvent la question. Tu vois, c'est un peu comme quand deux cyclistes se rencontrent avec les vélos. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils prennent le vélo de l'autre, ils le pèsent. Tu vois, ah ouais, il est léger, tu vois. Ouah, il est lourd. Bah, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, t'es à combien de kilomètres ou tu fais combien de kilomètres à l'année? Comme si ça te donnait un indicateur. Mais moi, je connais des gens qui font 30 000 kilomètres à l'année, mais qui avancent pas dans une bosse. Tu vois? Ouais. Parce qu'ils ont un plan d'entraînement ou ils en ont pas, qui est mal structuré. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si on se compare aux professionnels, c'est la FTP. C'est-à-dire qu'on dit tout de suite.
Ah, j'en peux plus de ce mot.
Bah ouais, mais aujourd'hui.
Tu m'énerves avec ce mot, tu m'énerves.
La FTP. Et ça, c'est arrivé depuis le Covid, où les gens ont découvert la puissance.
Je vais sortir d'ici.
Parce qu'ils ont fait du vélo d'intérieur.
Je ne le prononce plus.
Ils sont sortis du Covid beaucoup plus en forme que quand ils étaient rentrés, parce que pendant 2 mois, bah, ils ont roulé en intérieur tous les jours quasiment. Et ils ont découvert la relation au watt et la FTP. Donc.
Sachant pas savoir à quoi ça correspond.
Exactement. Tu vois, on parlait de la FTP de Pogacar tout à l'heure. Les gens savent même pas combien ils pèsent. La FTP a un lien avec le poids. Mais je trouve que la FTP aujourd'hui.
Et un lien
aussi avec
une durée d'effort, enfin, un type d'effort un qui type est particulier d'effort. Et qui, donc, qui correspond à un type de coureur. Tu vois. Si tu demandes à un sprinter, tu compares à un sprinter. Enfin, tu vois, le vélo, c'est un sport de stratégie. Hein, c'est, en gros, hein, si on fait une course de vélo, c'est celui qui s'économise le plus, qui se donne le plus de chances de réussir à battre les autres.
C'est celui qui gère le mieux son réservoir d'énergie, on le voit comme ça, mais oui.
Et donc avoir une grosse FTP, c'est pas une garantie de ce type de respecter un sprinter, tu vois, et lui, il faut qu'il donne tout sur la fin et il pourra très bien battre quelqu'un qui est beaucoup plus fort en FTP. La FTP, on va dire, c'est devenu une valeur une valeur de classement par rapport à machin, un truc. Mais en fait, ça dépend.
D'autant plus si tu te compares à un professionnel.
Bah, d'autant plus. Et en plus, souvent, tu le fais sans comparer, sans rapporter au poids. Tu vois.
Oui.
Donc, ça n'a encore aucun sens. Quand vous lisez les articles sur les puissances des coureurs du Tour de France, au Giro, enfin, toutes les courses, des professionnels, 99 fois sur 100, ces puissances sont rapportées à un poids étalon pour pouvoir comparer les performances de chacun. D'accord ? Mais c'est pas les valeurs brutes.
Je dirais qu'il y a... Alors c'est vrai que la FTP, aujourd'hui, c'est devenu une référence. On est d'accord pour dire que c'est une énorme erreur que les amateurs, même passionnés, même qui ont du temps, même de haut niveau, de se comparer à la FTP d'un coureur professionnel. Tu es d'accord avec moi ? Je pense que voilà, c'est une erreur. Mais est-ce que la seule manière... où on pourrait se comparer, c'est le matériel quelque part. Parce que c'est vrai que tu disais la dernière fois que tu avais beaucoup de tes clients qui étaient chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on le voit, on a beaucoup, beaucoup d'amateurs. Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années de cela, où tu avais vraiment du matériel que les professionnels avaient accès et auquel les amateurs n'avaient pas accès.
Ouais.
Aujourd'hui... Tu peux avoir le vélo de Pogacar.
Ah oui, combien? J'ai des clients qui ont le vélo de Pogacar.
Tu peux avoir le vélo de Vingegaard.
Oui,
tu peux avoir le vélo aussi de.
Combien?
Bah, des équipes les moins bien classées, qui ont du matériel forcément qui n'est pas de dernière technologie. Mais aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, moi, des vélos comme ça, j'ai jamais trouvé de bouton pour rouler à 60 sur le plat encore.
Comme dit, tu connais un peu le basket?
Un petit peu.
Tu connais Laurent Ciara?
Oui,
alors, ancien joueur de l'équipe de France de basket dans les années pour les Jeux de Sydney. Il dit tu ne feras pas d'un dauphin un requin.
Oui, voilà. Bah, cheval de course.
Dauphin, tu n'en feras pas un requin. Bah, si je veux dire la même chose, c'est pas parce que tu as un vélo à 15 000 boules que tu vas mieux monter les montagnes. Ça n'a rien à voir, justement, c'est une erreur, ça. C'est pas parce que tu vas avoir un vélo qui va peser 7 kilos, 6 kilos 8 au lieu de 7 kilos 2 que tu vas grimper plus vite. Alors que t'en fais 100, tu vois. Voilà. C'est là où il faut se dire, j'achète parce que ça me fait plaisir.
C'est ce que j'allais dire.
Mais j'achète pas pour être plus performant.
Les gens connaissent ma relation avec l'esthétisme du vélo, tu vois.
Voilà,
je suis pas bon, mais je suis beau, tu vois.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'étape d'hier sur Paris-Nice avec le...
Alors, au moment où on enregistre cet épisode, effectivement, nous ne sommes pas au mois de mai. L'épisode est diffusé pendant le Giro, mais au moment où on enregistre cet épisode, vous connaissez les secrets maintenant d'enregistrement, effectivement, on a vu Vingegaard avec un magnifique cuissard long mis n'importe comment, sur des bretelles. Alors... Apparemment, ce qu'il explique, c'est qu'il aurait souhaité le poser pendant la course et qu'il n'a pas pu poser.
En gros, il a mis un cuissard long par-dessus son cuissard court.
Par-dessus sa tenue, même, parce que le cuissard long, on revient sur son dossard et tout. Et en plus, il est coupé à l'arrière. Enfin, c'est ni fait ni à faire.
C'est la brigade du style où tu lui donnes
quelques notes. Brigade du style. Ouais, bah, Vingegaard, je suis même pas la moyenne sur la brigade du style. Vingegaard, je suis même pas la moyenne. Le plus beau, pour moi, le coureur le plus stylé, c'est Van Der Poel, parce que il est stylé. Il est pas maigrelet. Je pense que quand on voit la prépa, ça pourrait nous emmener sur un autre épisode, mais je pense que il est probablement plus proche des préparateurs physiques de Ronaldo que de Vingegaard.
Ah, je l'ai croisé Vingegaard en stage en Espagne
il y a quelques jours,
et dans la descente, il me salue. Et moi je montais.
C'est toi qui l'as fait tomber ?
Non, pas du tout.
Moi je
montais, lui il descendait, il m'a salué et au début j'ai cru que c'était un adolescent en fait. Tu vois, c'était un cadet. En fait, il est tellement petit et tellement maigre.
Bah oui,
c'est dingue.
Mais déjà les coureurs professionnels quand tu les vois physiquement en vrai, non pas à la télé, tu t'es surpris par leur maigreur qui est surprenant. Alors en plus, Vingegaard qui est déjà à la télé paraît maigre et petit.
Ah là, je te dis.
C'est un ado. T'as envie de lui dire ils sont où tes parents, tu vois.
Je veux te raconter un truc. Je montais le col de Rates. Tu vois, j'étais entre 300 et 320 watts. Il y a deux gars qui me doublent et des Français. J'entends qu'ils parlent français. Hey, les gars, ça va? Je dis, vous êtes des juniors. Non, on est cadets. Ça calme quand même.
Bon, c'est une autre génération. Revenons à nos comparatifs. Donc l'FTP, c'est une erreur. Le matériel, vous faites plaisir, mais vous n'avancerez pas plus vite en prenant un vélo à des milliers d'euros. Mais vous avez entièrement raison de faire plaisir.
Il faut pas faire au niveau du matos. C'est-à-dire qu'il faut avoir un. Il faut pas rentrer dans les. JP, il serait là, il me saluerait. Il faut pas rentrer dans le marketing commercial.
Ah, mais c'est dur. Si
tu vois les choix, penser que des roues vont te faire aller plus vite, c'est oublier le principal. Avoir des roues hyper profilées et avoir un casque qui est pas aéro, tu vois, c'est
ou une barbe comme la mienne.
Voilà, tu vois.
Ouais. Il m'a dit la dernière fois, JP, il me dit Arnaud, tes roues de 65, elles sont très belles, mais t'as une barbe, tu vois.
Non mais par principe c'est exactement ça, ou à une position où t'as l'impression d'un facteur. Le nombre de gens qui se mettent au vélo aujourd'hui, c'est incroyable. À Bordeaux, je te promets, le week-end c'est
plein,
en 10 ans c'est devenu, je sais pas comment c'est à Lyon, mais c'est devenu incroyable. Mais le nombre, moi je prends mon vélo où je prends quand je suis en voiture et que je croise des gens, le nombre de gens qui sont posés
mal positionnés
n'importe comment sur un vélo, ça fait mal au cœur. Des fois tu vois des gens avec des vélos à 8000, 9000 euros. Pour aller plus vite, mais en fait déjà tu vas chercher,
c'est dur de trouver
pour aller chercher le pain à la boulangerie, c'est une position peut-être adaptée, plus confortable. Par contre, pour aller vite sur un vélo, c'est pas trop. Et donc en fait
sans forcément aller vite, mais juste avoir une bonne position. Alors après, t'as la position et JP, on en parle souvent. Est-ce que c'est le confort ou est-ce que c'est la performance? Le confort fait la performance, mais parfois, tu prends un vélo de chrono. Alors même si aujourd'hui, les positions sont bien plus confortables qu'avant, tu peux te permettre de supporter une position. Tu vois, si on compare entre les professionnels, là aussi, on parle que de la route, mais si on parlait du chrono, par exemple, aujourd'hui, tu pourrais supporter une position qui n'est pas très agréable sur un chrono parce que tu sais que c'est court et ça va surtout optimiser ta puissance, la libération de ta puissance. Alors que sur un vélo de route, certains, tu prends, comment s'appelle le coureur de F Education, là, qui était avant la Quick Step, qui a un drop, mais qui est énorme entre la selle et son guidon. Le champion du Danemark, je ne l'ai plus en tête. Son drop est énorme. Là, j'ai des doutes qu'un amateur ou qu'un cycliste classique qui roule entre 6h et 12h, puisse supporter ce drop-là. Il a le dos qui est totalement cassé, tu vois. Donc, là aussi, dans le matériel, la position, les fameuses cocottes, tu sais, fameuses cocottes rentrées à l'intérieur, c'est Remco qui avait lancé ça.
Pouvoir avoir un meilleur appui sur les mains et être beaucoup plus penché, ouais.
Exactement. Et d'un seul coup, on a vu que chez les amateurs aussi, les cocottes étaient rentrées. Et là aussi, moi, je fais du vélo depuis pas mal d'années.
Toi, t'es un puriste, t'as pas compris ça.
Non, c'est pas que j'ai pas compris, mais en fait, si tu prends la position naturelle de tes mains, bah effectivement, la position naturelle de tes mains, elle est pas comme tous les fabricants mettaient les cocottes avant, droite dans le guidon en fait. Ça veut dire que là, tu casses tes poignets, la position naturelle des poignets. Elle serait effectivement les cocottes légèrement rentrées à l'intérieur. Moi, c'est en tout cas comme
mais
ça.
Mais lui, il les rentre avant parce qu'il
met les mains. Mais lui, il les rentrait vraiment de manière.
Oui, mais parce qu'il met pas les mains comme ça, il met les mains comme ça.
Exactement. Pour
donc
une question.
Ça, donc ça lui permet
donner plus de puissance.
Bah, c'est en fait, si tu fais comme ça.
Bah, d'aérodynamisme également.
Ça te permet de reprocher les bras, en fait.
Donc voilà, dans la comparaison au niveau du matériel.
C'est pareil, les guidons, les cintres, ils rétrécissent au sein du peloton professionnel. T'as entendu parler de ça?
Oui, bah
un pour pouvoir se mouvoir plus facilement dans le peloton.
Ouais, on en
et
a...
deux pour pouvoir être plus aéro.
Oui, mais ce qui génère aussi beaucoup de chutes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a beaucoup
de chutes. Oui, mais du coup les amateurs ils commencent à copier ça, tu vois.
Bah ouais, mais là vous pouvez plus du tout manier votre vélo, quoi. Enfin, ouais. Quand tu vois certains, il y en a certains, ça devient même ridicule d'avoir des guidons aussi petits. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis mais c'est un jeu vidéo, quoi. c'est une manette de jeu vidéo, quoi. C'est très 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 limite. En tout cas, moi je recommande pas. Je pense que en tant qu'amateur, alors après t'as les coursiers. Là, chacun, t'as les coursiers. Je peux comprendre, mais en tant qu'amateur, des gens qui ne font pas de course ou l'étape du tour dans l'année, franchement, prenez un guidon qui vous permet d'être stable dans en danseuse. Ça vous permet de tirer beaucoup plus facilement, d'avoir un effet de levier beaucoup plus important aussi en danseuse. Donc bon, après chacun, voilà. Et si on revient sur le comparatif professionnel-amateur, la zone 2, est-ce qu'on peut se comparer en zone 2? Tu en avais parlé dans l'épisode précédent, ça avait fait polémique ce que tu avais lancé en story, mais tout le monde parle aujourd'hui de la zone 2. On avait été un des premiers podcasts à lancer la zone 2, puis j'ai vu que d'autres podcasts derrière avaient rebondi. Certains très visibles, d'autres moins visibles, mais en tout cas, la zone 2 s'est mise à avoir de la visibilité. Est-ce que les professionnels font de la zone 2?
Bah oui, c'est d'ailleurs ce qu'ils font le plus. Voilà, c'est ce qu'ils font le plus. Mais parce que ils ont le temps aussi à y consacrer. Et en proportion, ils en font plus que nous et en volume encore plus. Tu vois.
Alors moi, j'ai eu la chance de rouler il y a quelques années avec Dorian Godon quand il était encore chez AG2R à l'époque. C'était même pas Decathlon, c'était AG2R. Et puis, j'étais parti faire une semaine d'entraînement, toujours dans le cadre de ma préparation, de la fenêtre que j'avais pour faire plein de choses dans l'ultra-distance. Et donc, j'étais une semaine à Gironde et je pars rouler. Et au loin, je vois un maillot bleu comme ça. Et je savais pas trop qui c'était. Puis, il se trouve que je rattrape dans une montée. Et c'était Dorian Godon. Donc, on discute. Il est lyonnais. Dorian Godon, et puis il se trouve qu'on avait roulé plusieurs années avant ensemble, donc on se met à discuter et je lui dis le type de sortie que je fais. Il me dit écoute, je vais venir avec toi, on va passer par là, donc il connaît bien la région, et voilà. Et je lui dis c'est quoi ton programme aujourd'hui, c'est quoi? Bon, il me dit j'ai de l'intensité à faire dans tel col, et effectivement ils font beaucoup beaucoup de foncier, mais par contre quand ils font des intensités, pour nous elles sont intenables. C'est là que tu vois la différence, en fait.
Oui, même à rouler à basse intensité, ils sont.
Oui, alors.
Non, mais tu t'imagines quand ils roulent à 300 watts, Pogacar, avec 65 kilos.
C'est, oui, oui, oui.
C'est sur du plat, et il va à 40 à l'heure. Hein.
Oui, mais je dirais que pour un amateur bien entraîné, sur le plat, quand un coureur professionnel enroule son braquet.
Tu suis dans la roue.
Ouais, tu peux.
Tu peux suivre.
Oui. Ouais, j'ai.
Mais pas sur 5 heures.
Mais peut-être pas sur 5 heures, mais en tout cas, t'es pas dans le rouge, quoi, tu vois ce que je veux dire? Par contre, dès que ces coureurs-là se mettent à faire de l'intensité, là, tu comprends. Tu comprends la différence.
Mais tu peux pas.
Et justement, si on compare, là, on parlait de la zone 2, qui est plus élevée, bien évidemment, que pour un amateur qu'un professionnel, mais si on parle de l'intensité, comment tu pourrais expliquer l'intensité que font les professionnels qui, pour un amateur, n'est pas tenable? C'est quoi? C'est dans la durée? C'est dans la répétition? C'est dans les watts produits
dans la puissance brute, qui est souvent plus élevée, dans la puissance brute à équivalent de poids. Donc ça, et après, c'est surtout dans la durée. C'est-à-dire que toi, tu vois, par exemple, si tu fais un 30-15, tu vas faire 2 fois 12 fois 30-15, déjà, c'est pas mal, tu vois. Et là, il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui arrivent à faire ça, qui ne font pas de compétition. Ceux qui font des compétitions, ils y arrivent, mais c'est plus complexe. Mais eux, ils peuvent te faire ça... donc ça va représenter à peu près 20 minutes d'effort, mais ils peuvent faire ce type d'effort de PMA sur une heure, tu vois. Genre, j'avais lu un article, Tom Boonen, quand il préparait le Paris-Roubaix, il faisait de la PMA, donc le travail de haute intensité, selon la méthode Jiménez. Donc, je sais pas si tu...
Bien sûr, j'ai fait sur Zwift, la méthode Jiménez, ouais.
Donc, c'est une minute à PMA, 4 minutes... juste au niveau en dessous du seuil lactique, enfin juste à ce niveau-là, et tu fais ça. Donc déjà quand t'en fais,
c'est des belles séances. Hein.
Déjà quand t'en fais 8 séries, et ben en fait lui il faisait 4 heures de vélo et il se tapait pratiquement 2 heures de gymnase en consécutif après. Voilà.
On parle de comparatif, hein, cet épisode consacré à est-ce qu'on peut se comparer à des professionnels ou pas en tant qu'amateur et pourquoi le faire et quand est-ce qu'on peut le faire ou quand est-ce qu'on peut pas le faire. Est-ce que les data ont pas un peu révolutionné les choses? C'est-à-dire qu'avant que les data arrivent, on se comparait sur quoi? Les kilomètres dans la semaine? Je pouvais même pas dire ton cardio, tu vois, parce que...
Non, mais c'était les kilomètres dans la semaine.
Les heures de sel.
Voilà. Ça avait pas trop de...
Les heures de sel. Aujourd'hui, tu as les watts... Enfin, t'as une tas de data aujourd'hui qui te permettrait de faire des comparatifs. Pour autant, est-ce que... tu vois, le matériel, avant, on pouvait pas avoir accès au même matériel que les professionnels peuvent avoir. Aujourd'hui, on peut avoir, comme je l'ai dit, hein, le même vélo, mais est-ce que... Est-ce que vraiment il y a des éléments sur lesquels on pourrait se permettre de se comparer? Et est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels ça sert à rien de se comparer, selon toi? Sur quoi un amateur pourrait se comparer? Et sur quoi il faut surtout pas se comparer?
Sur le volume, déjà.
C'est inutile de se comparer parce que le temps disponible n'est pas le même.
Puis sur les puissances, te comparer à quelqu'un du World Tour, ça a vraiment pas vraiment d'intérêt en fait, parce que de toute façon c'est des gens, ouais, c'est un autre monde. Je te dirais même de te comparer sur un segment parfois, ça devient ridicule, parce que tu vois, souvent les segments des pros ils sont faits pendant une course.
Oui.
Et donc du coup, ils sont 180 bruts qui roulent, voilà. Et quand t'es dans un peloton, t'as une espèce de phénomène d'aspiration qui fait que l'effort il est pas du tout le même. Et ça c'est une erreur de qu'on dire ah ouais, t'as vu, ils ont fait 15 km/h plus que moi, c'est impossible, machin. Mais oui, en fait, c'est juste le contexte dans lequel ils l'ont réalisé, alors que toi, t'étais tout seul.
C'est vrai que quand tu fais un PR sur un segment qui est le passage d'une course professionnelle, même amateur. Bon, bah, tu pleures parce que t'as tout perdu, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et tu te retrouves très, très loin dans les classements. Donc, il devrait même d'ailleurs y avoir chez Strava, peut-être une distinction entre ça a été fait en course et ça n'a pas été fait en course. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'autre sujet de comparaison, ça pourrait être l'alimentation? Parce que ça aussi, l'alimentation, elle a totalement évolué depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si moi je t'appelle Loïc, je te dis, voilà, je suis super content, j'ai récupéré le plan d'alimentation de Paul Sexas. Voilà. J'ai récupéré le plan d'alimentation de Paul Sexas.
On commence en course.
J'ai récupéré son plan d'alimentation. Ouais. Et je respecte. C'est-à-dire que le matin, il mange 2 biscottes, je vais manger 2 biscottes. Le soir, il mange une salade, une tranche de jambon blanc, une pomme, il va se coucher. Je fais pareil. Qu'est-ce que tu me dis?
Alors, déjà, on va commencer en course. Donc, c'est parce qu'en ce moment, tu sais, c'est la mode des glucides.
C'est la mode des 90 grammes, j'ai entendu maintenant.
Van der Poel, il prend 120 grammes. Voilà. Sur les 2 dernières heures de Milan-San Remo, faut que je fasse pareil, ça va marcher. Bah, moi, je veux te dire une chose, c'est que tu vas aller juste un peu plus aux toilettes, tu vois. Parce que si ton estomac et ton intestin, il est pas habitué, voilà. Et en plus, ça aura pas forcément d'intérêt. Si tu prends le régime global, c'est plutôt l'inverse. C'est que les pros, ils mangent beaucoup de calories puisqu'ils s'entraînent tous les jours. Quand tu fais 35 heures d'entraînement par semaine, 35 heures d'entraînement par semaine, on va dire 30 heures, ça représente à peu près 21 000 calories dans la semaine. En plus de ce que tu fais. Si tu manges autant, tu t'entraînes moins.
Tu maigris.
Et qu'en plus, t'as un boulot sédentaire, ouais, t'as gagné le jackpot, tu vas pas y arriver. Après, ce que les gens imitent, c'est plutôt les anciennes méthodes de régime, tu sais. Ouais, machin, comment dire, le père machin qui était pro en 95, il faisait des régimes à la pomme. Pendant une semaine, je mange que des pommes. Voilà. Et, tu vois, ça c'est.
Ou alors, tu manges pas si tu roules pas.
Voilà, okay. Tu manges pas si tu roules pas. Voilà, tu vois, toutes ces choses-là.
Ah, j'ai entendu ça, moi.
Ah, oui, mais il y en a plein. Ou alors, les régimes cétogènes que tu peux entendre. Tu sais, quand la Sky, il faisait ce type de régime. Mais dans des contextes particuliers, dans des stages, et en plus avec une alimentation très spécifique pendant l'effort, bah, les gens, tu raccourcis tout ça et tu fais, je vais pas manger de glucides, machin, pendant jusqu'à un jour, je vais faire ma séance de PMA, je vais manger. Bon, voilà, tout ça, il faut éviter de comparer. C'est déjà des personnes qui sont surhumaines. Et en plus, elles sont suivies.
Tout est pesé. Enfin, elles ont toute à disponibilité, les physios, les machins.
Voilà, physios, médecins, ils font des prises de sang pour évaluer l'efficacité de chaque régime. Voilà. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est tout ce qui va être hypocalorique, parce que ça, c'est le déficit calorique, c'est ce qui détruit la santé le plus. Et après, bon, quand c'est hypercalorique, bon, ça c'est moins. Et puis surtout, c'est l'hyperglucidique qui est aujourd'hui à la mode et qui est une belle connerie, sachant quoi. On sait pas les conséquences à long terme, puisque on s'aperçoit de façon empirique que ça fonctionne sans comprendre physiologiquement pourquoi. Faut pas oublier. Et deux, on sait pas du tout les effets sur notre santé à plus tard, tu vois.
Donc, mais c'est vrai que la sous-calorie, moi, je l'ai testé, je l'ai testé indirectement, c'est-à-dire que je m'étais mis dans ce schéma-là, quand j'étais à haut niveau, parce que je voulais performer, pour être très maigre. Et en fait, ça m'a conduit au surentraînement, ou en tout cas un problème de santé qui fait que ma saison a été blanche totalement, alors que j'avais jamais été aussi affûté, ça c'est clair. Mais j'avais aucune énergie. Donc là, je me suis détruit la santé dans ces années-là, parce que par volonté de bien faire, mais comme je n'étais pas encadré, personne m'a dit là, Arnaud, t'es en train de faire une sacrée connerie en fait. Quand t'arrives au mois de mars, c'est même à l'entraînement, tu suis pas tes collègues. C'est-à-dire que même à l'entraînement, je faisais demi-tour parce qu'en fait, au bout d'une demi-heure, j'étais rincé. Tu vois, là, il y a quand même un gros problème. Donc sur l'alimentation, là aussi, ne vous comparez pas parce que vous n'êtes pas professionnel. Eux ont du temps, ont des physios, ont des nutritionnistes, savent précisément comment leur corps fonctionne, de quoi il a besoin. Et tout ça, ça nécessite des moyens financiers, des études.
Un autre point où il ne faut pas se comparer, c'est les méthodes d'entraînement.
Et les méthodes d'entraînement, qui aujourd'hui ont vachement évolué. Alors, également depuis...
Un truc qui devient la mode, c'est le stage. D'accord ?
Le stage, ouais.
Stage de début de saison. Sans parler d'altitude.
Ça a toujours existé, le stage en début de saison.
Oui, mais aujourd'hui, c'est devenu à la mode. C'est-à-dire que tout le monde fait les stages. Tu vois, regarde, j'étais dans le sud de l'Espagne, dans la région de Calpe. Mais il y a 10 ans, j'y allais. Il y a 10 ans aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Le nombre de cyclistes, c'est hallucinant. Tout le monde fait des stages. Sauf qu'en fait, monsieur tout le monde, tu vois, il sort de... il a fait sa saison. Peu importe, cyclo, peu importe. Arrive le froid, il sort plus, je suis un peu l'entraîneur. Je passe de 10h à 5h d'entraînement par semaine. Puis, tu as décembre où il y a les fêtes. Ah là, les fêtes, je mange et puis surtout, je bois. Je reprends mon truc en janvier, février, stage. Bah là,
je vous dis, en plus, c'est pas plat.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous allez être avec les copains et que ça va vous tirer la bourre pendant 7 jours et que vous allez vous taper... parce que c'est un stage, tu n'es pas venu pour rien faire. Tu vas faire 3 heures de vélo. Donc quand tu y vas, tu en fais 6 ou 7. Sauf que ça fait 4 mois que tu fais rien. Ben voilà, champion, tu as gagné ta saison. Et à partir de mai, il n'y a plus personne. C'est fini, voilà. Et ça, c'est à mon avis, ça, les gens vont se reconnaître, certains. Parce que c'est devenu à la mode. Tu vois, tout le monde va au sud de l'Espagne maintenant faire un séjour vélo préparer la saison.
Et ben, c'est pas plat du tout. Calpe, on a eu l'occasion de faire un stage ensemble il y a quelques années. Calpe, je vais te dire, quand tu sors ton vélo, faut arriver déjà avec une certaine condition physique. Alors certes, tu vas croiser des pros, Vingegaard, moi je me souviens, on avait croisé Remco. Il y a aussi Van Der Poel qui habite là-bas d'ailleurs et qui s'entraîne là-bas. C'est pas plat du tout, en fait. Si t'as pas un minimum de conditions physiques, t'es dans le dur, mais au bout de 5 kilomètres.
Exactement.
Donc, il faut déjà arriver préparé. Donc, là aussi, ne vous comparez pas avec les professionnels.
Donc, ça, c'est les méthodes d'entraînement modernes qu'il faut adapter. Tu vois, quand tu pars en Espagne pour faire un stage, tu l'adaptes à ton niveau. D'accord? C'est pas la peine d'aller te tuer tous les jours parce que t'es là-bas. Voilà. Tu vois, là, aujourd'hui, moi, j'y étais. Quand il pleuvait, on a fait 2 heures. On s'adapte, on fait d'autres choses. On va plus doucement. On encadre de façon que tout le monde puisse réaliser les choses sans
extrême fatigue.
Et si on se compare aux professionnels, Loïc, c'est qui pour toi le cycliste pro, le GOAT, tu vois, la référence des références, tu vois. Ah, est-ce que tu es de cette génération où pour toi Pogacar, il est encore plus grand que Merckx? Est-ce que tu es de la génération Dino, de Merckx, de... C'est qui le plus grand cycliste pour toi qui est le plus impressionnant? C'est pas forcément celui qui gagne tout actuellement, mais par sa classe, par ses qualités, par l'image qu'il dégage. Tu vois, on parlait de Van Der Poel, bon, ben, certes, c'est un grand champion, mais on le voit très peu sur les réseaux, très peu en interview. Peut-être que ce mec est pas sympa, finalement, à côté. J'en sais rien. Alors qu'à côté, un Pogacar, lui, c'est un clown. Il fait des saltos dans la piscine des jours de repos du Tour. Tu vois, c'est qui pour toi la référence aujourd'hui des cyclistes professionnels?
Dans l'histoire du vélo.
J'en sais rien aujourd'hui où tu vas nous justifier tout ça, tu vas nous donner des arguments.
Ouais, toi aussi, tu vas me dire. Alors moi, j'ai commencé le vélo dans les années 90 et mon modèle, c'était Miguel Indurain. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, bon, voilà.
Qu'est-ce que tu dis?
Bah, tu te dis, un mec de 90 kilos qui fout la branlée à des mecs de 55 sur l'école.
Les mains dans le creux du cintre.
Bon, ok, c'était peut-être pas le bon modèle, tu vois. Bon, mais bon, voilà, tu vois, j'aurais aimé m'identifier à lui. Et la dernière fois, j'ai été roulé, il m'a dit, tu vois, t'aurais fait du vélo dans les années 90 en pro, t'avais ta chance, tu vois.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
Voilà. Mais maintenant, c'est fini, tu vois. Non, blague à part. Aujourd'hui, moi, pour moi, le coureur, de tous les temps, le GOAT du GOAT, c'est Mathieu. Et je vais argumenter.
Vas-y, on t'écoute.
Parce que, au-delà de ses qualités physiques, ses qualités techniques sont hors normes. Parce qu'on peut dire tout ce que tu veux. Mais quand t'arrives dans le carrefour de l'arbre à 60 à l'heure et que t'es le seul à pas freiner dans le virage, que t'es le seul, c'est pas des peintres derrière, hein. C'est des mecs, tu vois, quand tu vois Tom Pidcock quand il descend le Galibier, tu te dis, bah, déjà, le mec, il est fou. Mais le mec, il est plus fort que ces fous-là. Il arrive là, il freine pas, il passe à ça du truc, il te dit, de toute façon, je maîtrise, j'ai fait exprès. Bah, tu vois, il a tout gagné, prends son palmarès. C'est le mec, si t'enlèves Pogacar, quand il est sur une course, il fait les top 5, quoi qu'il arrive. C'est assez hallucinant. Et puis, il est gentil. C'est le fils de notre héros national Raymond Poulidor, le petit-fils de notre héros national Raymond Poulidor, et il est fort partout. C'est le seul qui serait capable d'être champion du monde VTT, cyclo-cross, route dans la même année. C'est le seul en fait qui serait capable de le faire.
Oui, je pense, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord.
Il est intelligent. Il court toujours avec une précision. Enfin, stratégiquement, il est.
Bah, il vient jamais pour faire 20e. Voilà. Ça, c'est quand il court.
Tu vois, là, les Strade Bianche, ils étaient trop difficiles. Il est pas venu. Il sait.
Il a gagné la deuxième étape de Tirreno.
De Tirreno, voilà. Il est. Enfin, voilà. Moi, c'est pour moi le coureur qui a le plus beau palmarès en termes de diversité. Bah, tu vois.
Un nombre de monuments, oui, ça, c'est sûr.
Voilà. Mais c'est pas un coureur de grand tour. Donc, tu vois, il y en a, ils diront, bah non, il a pas gagné un grand tour. Mais le vélo, ça se résume pas qu'au grand tour, tu vois. Sachant qu'en plus, les grands tours, voilà, c'est quand même des coureurs très, très typés, montagne. Voilà. Lui, il gagnera peut-être jamais une étape sur le Galibier. Mais il est, enfin, voilà. Moi, le GOAT, c'est celui qui fait rêver, tu vois. Et lui, il me fait bien plus rêver que. En tout cas, voilà, pour moi, c'est le de tous les temps. Et pourtant, tu vois, si on reprend, il y en a plein. Hein, Bernard Hinault, Laurent Fignon, même Charles avant, Louison Bobet, Anquetil, mon Merckx.
Jackie Durand.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y en a plein, tu vois. Mais je suis sûr que Steve Chenel, il serait d'accord
Steve
avec
Chenel,
moi.
Steve Chenel, probablement.
Il serait d'accord avec moi sur ça. C'est le mec, je sais pas, il a cette étincelle. C'est un peu comme au basket, le GOAT, c'est qui? LeBron James, Jordan, mais il y en a qui mettent Kobe et il y en a qui mettent Stephen Curry. Mais ouais, pour moi, le GOAT, celui qui a révolutionné le basket,
c'est Jordan.
En fait,
l'industrie du basket, pas que le basket.
Mais les règles du basket ont changé.
C'est un podcast sur le basket. Hein.
Non, mais c'est Stephen Curry. Mais pour moi, là, c'est la même chose. Van Der Poel, c'est Stephen Curry du vélo.
Ouais,
c'est des artistes. Voilà. Et ils ont changé leur sport.
Ouais, alors, mais Pogacar, je suis d'accord avec toi, mais
Pogacar, il fait ce qu'il fait.
Je trouve un peu trop antipathique, Van Der Poel. C'est-à-dire que
Ouais, et parce que alors après, parce que c'est une culture néerlandaise, tu vois.
Ah voilà. Oui, c'est sûr. Oui,
tu vois ce que je veux dire, c'est sa culture qui ouais. Tu vois. Mais
oui, oui,
mais Pogacar, il ferait pas ça si Van der Poel avait pas initié. C'est lui qui a initié ces mouvements d'attaque de loin.
Ouais. 80 bornes, t'imagines, des attaques de 80 bornes, ça n'existait pas.
Moi, je suis sûr que Pogacar, comme il est un peu plus jeune, il regardait Van der Poel sur les classiques et il disait putain, le mec. C'est fou ce qu'il fait.
Alors
tu vois.
Je sais qu'ils se connaissent bien, ils s'envoient des petits messages, ils sont potes, ils sont concurrents bien évidemment, ouais. Mais ils sont aussi potes.
Mais tu vois, c'est
ça a desservi probablement Vingegaard et d'autres coureurs dans les finales d'ailleurs parce qu'ils se connaissent tous les deux, donc ils se parlent aussi. Mais moi, je suis pas. Moi, je vais répondre à la question, mais il n'y a pas de coureur professionnel qui m'impressionne. Alors ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Mais disons que je suis toujours dans la retenue, ayant été à haut niveau et ayant vu des choses. Ouais, je suis plus impressionné par les monsieur et madame tout le monde qui se font les 2500 km et que je vois arriver, et c'est le projet. Ils ont roulé des centaines de kilomètres par jour. Et ben ça m'impressionne, tu vois, parce qu'ils ont réussi à se donner les moyens et à faire. Tu vois, comme sur la RAF, les premiers font 700 bornes par jour, 700 bornes sur 24 heures. Ça m'impressionne. Ah, okay, ouais. Ça m'impressionne et je me dis, wow, les gens ne se rendent pas compte, 700 bornes par jour. Mais par contre, le niveau professionnalisme, alors je suis un passionné de vélo, donc je regarde, c'est beau, c'est. Mais il y a toujours un truc derrière que je sais qu'on ne saura pas, tu vois. Donc, ça me. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de.
Mais tu disais le plus beau, c'était Mathieu.
Ah, sur le vélo, oui, la classe. Ouais. Ouais, la classe.
Le plus complet, c'est qui?
Il me fait penser à un Jérémy Dérangère que j'ai bien connu. Certains l'ont peut-être connu d'ailleurs, avec qui je m'entraînais quand j'étais à haut niveau, parce qu'on était tous les deux originaires de la même ville et on faisait nos études. Moi, je faisais mes études au Creusot, en Saône-et-Loire. Et Jérémy Dérangère, qui était licencié à Créteil, Aubervilliers, et qui était dans les chambres pour passer professionnel. Il était en équipe de France amateur et on s'entraînait ensemble. Et lui, il avait la classe, tu vois. Il avait la classe et après, il aurait pu passer pro. Il est allé au SCO Dijon et là, il a tout gagné chez les amateurs. Et ce mec-là avait la classe sur le vélo. Un Van der Poel, pour moi, il a la classe. Quand tu vois un peloton, tu vois ce mec, tu vois, il a la classe sur le vélo. Après, Pogacar, bien évidemment, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de... Vois, ça reste tellement impressionnant que...
Tactiquement. Enfin, tu vois, quand tu pars à 80 km et que tu fais ça à chaque truc et que personne te suit, il y a rien en fait. C'est-à-dire que tu es juste plus fort. Un cadet fait ça quand les cadets dominent, tu as couru en cadet.
Oui. Tu sais, avec les décalages. J'ai pas couru en cadet, mais
il y a des décalages, ouais, de physique. Oui, tu vois, mon frère en cadet, il faisait 1m90 et il avait 16 ans, il faisait 90 kilos.
C'est sûr qu'il y avait
il partait et personne qui suivait.
Je pense que même les mecs quand ils savent qu'il est au départ,
il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait.
C'est comme un Van der Poel quand il part dès qu'il prend 20-30 secondes. Tu sais que ça va finir à 1 minute 20 à l'arrivée et que tu reviendras pas.
C'est pas exactement comme ça. Quand il le fait dans des certaines conditions. Puis des fois, il a été capable d'attendre derrière. Enfin, il y a
une. Je sais pas. Moi, je. Voilà. Justement, comme tu l'as dit, c'est pas des peintres. Et quand il y a un tel écart.
Là, tu l'as vu sur l'étape de Tirreno. Sur la montée où il commence à faire craquer tout le monde. Tu regardes derrière, ils tombent tous dans le virage qui monte. T'as le mec de la Jumbo, il glisse, il fait tomber tout le monde. C'est le seul qui passe.
Comme une fois le Koppenberg, ça a été le seul à le monter
assis. Oui, quand il pleuvait. Tous montaient à pied. Les mecs, ils montaient à pied, et là, tu peux faire ce que tu veux.
Il y a une puissance.
Non, mais c'est pas qu'une puissance. Justement, si t'es trop puissant, tu glisses de l'arrière. C'est une agilité sur le vélo et une coordination de sa puissance avec cette agilité qui est hors norme. C'est hors norme.
Écoute, moi, je trouve effectivement, je suis impressionné par Pogacar. Je trouve Van der Poel beau sur un vélo, mais aussi d'un palmarès qui est. Moi, j'adore regarder des Milan-San Remo parce que ça va être une bataille incroyable. Les Flandriennes, enfin les classiques, c'est magnifique à regarder. Ouais. Mais pas pour autant. Je les trouve impressionné par leur performance. C'est beau ce qu'ils font, mais c'est l'industrie du cycle. Il y a du marketing, il y a d'autres choses derrière qui font que. Et moi, je suis plus impressionné par ces amateurs qui ont un job et qui font 2500 bornes en 6 jours, 7 jours, 8 jours. Donc voilà. Et en tout cas, on pourquoi pas creuser ces sujets du professionnalisme dans un autre épisode. Je te remercie pour cet échange, Loïc. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.
À très vite.
S'il y a une idée à retenir de cette discussion, c'est peut-être celle-ci. Regarder les pros peut inspirer. mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'entraîner. Parce que derrière ce qu'on voit à la télé, il y a des années de construction, d'entraînement, du volume énorme et une réalité qui est très loin de celle de la plupart des cyclistes. L'important finalement, c'est peut-être de trouver l'entraînement qui correspond à son temps, à son objectif et au plaisir que l'on peut prendre sur le vélo. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci.